Été de corruption. Un élève doué. Pour Elaine Koster et Herbert Schnall. Chapitre 1. Il avait tout du parfait petit américain sur son vélo Schwinn 650 à guidon en corne de vache, en train de pédaler dans une rue de banlieue. Et c'est exactement ce qu'il était. Todd Bowden, 13 ans, 1m72, 65 kilos, les cheveux couleur de blé mûr, les yeux bleus, les dents blanches et régulières, une peau légèrement bronzée sans l'ombre d'une trace d'acné juvénile. Il pédalait du soleil à l'ombre, pas très loin de chez lui, avec un sourire de grandes vacances. On aurait dit le genre de gosse qui livre des journaux, et il faisait effectivement une tournée pour le clairon de Santo Donato. Ou le genre de gosse qui vend des cartes de vœux pour gagner 3 sous. Et cela aussi, il l'avait fait. De celles où on imprime votre nom à l'intérieur, Jack et Mary Burke, ou Don et Sally, ou les Murchison. C'était encore le type même du gamin qui siffle en travaillant, et cela lui arrivait souvent. D'ailleurs, il sifflait très joliment. Son père était architecte et gagnait 40 000 $ par an. Sa mère avait passé une licence de français et avait rencontré le père de Todd à l'université alors qu'il cherchait désespérément des leçons particulières. À temps perdu, elle tapait des manuscrits et elle gardait dans un classeur tous les bulletins scolaires de son fils. Son préféré, c'était le dernier bulletin du cours moyen, où Madame Uppershaw avait griffonné « Todd est un élève extrêmement doué ». Et il l'était, des A et des B sur toute la ligne. S'il avait fait mieux, que des A, par exemple, ses amis auraient pu commencer à le trouver bizarre. Il arrêta sa bécane en face du 963 rue Clarmont et mit pied à terre. La maison était un petit bungalow discrètement posé au fond du terrain, blanc avec des volets et des bandeaux verts. Une haie faisait le tour, bien arrosée et bien taillée. Todd écarta une mèche blonde de ses yeux et poussa la chouine sur l'allée en ciment. Jusqu'au perron. Il souriait toujours, d'un beau sourire plein de franchise et d'espoir. Il abaissa la béquille du vélo du bout d'une de ses chaussures de course et ramassa le journal jeté sur la première marche. Ce n'était pas le Clairon, c'était le LA Times. Il le mit sous son bras et monta les marches. Elle donnait sur une porte en bois massif protégée par une double porte en grillage. Il y avait une sonnette à droite, sur le chambranle, et sous la sonnette, 2 petites plaques soigneusement vissées et protégées chacune par un plastique pour les empêcher de jaunir ou de se salir. L'efficacité allemande, pensa Todd, et son sourire s'élargit un peu. C'était une réflexion d'adulte, et chaque fois qu'il en avait une, il se félicitait intérieurement. Sur la plaque du haut, Arthur Denker. Sur celle du bas, ni quêteur, ni vendeur, ni représentant. Toujours souriant, Todd appuya sur le bouton. Il entendit à peine un ronflement assourdi, lointain, tout au fond de la petite maison. Il ôta son doigt et pencha légèrement la tête, guettant un bruit de pas. Rien ne vint. Il regarda sa Timex, une des primes reçues pour avoir vendu des cartes personnalisées, et vit qu'il était 10h12. Le type devait être levé. Todd se levait toujours au plus tard à 7h30, même pendant les vacances d'été. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Il écouta encore 30 secondes, ne perçut aucun bruit, et garda le doigt sur le bouton en regardant la trotteuse de sa Timex. Il sonnait depuis exactement 71 secondes quand il finit par entendre des pas traînants. « Des pantoufles », pensa-t-il, d'après le léger chuintement. Todd était en plein dans les déductions. Son ambition actuelle, pour quand il serait grand, c'était de devenir détective privé.
« ça va !»
cria d'un ton geignard celui qui prétendait s'appeler Arthur Denker.
« J'arrive, lâchez ça, j'arrive !»
Todd ôta son doigt de la sonnette. Il y eut un raclement de chaîne et de verrou derrière la porte en bois. Puis elle s'ouvrit vers l'intérieur. Un vieil homme tassé, en peignoir de bain, apparut à travers le grillage. Un mégot se consumait entre ses doigts. Todd pensa qu'on aurait dit un mélange d'Einstein et de Boris Karloff. Ses cheveux étaient longs, d'un blanc qui commençait à jaunir de façon déplaisante, évoquant plus la nicotine que l'ivoire. Il avait le visage ridé, plissé et bouffi de sommeil. Et Todd vit avec un peu de dégoût qu'il n'avait pas pris la peine de se raser depuis au moins 2 jours. Son père disait souvent « Quand on se rase, le matin brille ». Son père se rasait tous les jours, qu'il aille ou non travailler. Les yeux qui regardaient Todd étaient alertes, profondément enfoncés dans leurs orbites, striés de vénules rouges. Todd se sentit soudain profondément déçu. Ce type ressemblait effectivement un peu à Einstein et un peu à Boris Karloff, mais il ressemblait surtout à un de ces vieux ivrognes minables qui traînaient près du dépôt de chemin de fer. « Bien sûr, se dit-il, ce type vient de se lever. » Todd avait déjà vu Denker plusieurs fois, mais avait pris toutes les précautions pour ne pas se faire remarquer du bonhomme. Pas question, Gaston. Et en public, il était toujours tiré à 4 épingles. Il avait tout de l'officier à la retraite. C'est ce que l'on se disait en le voyant. Il avait pourtant 76 ans, si les articles que Todd avait lus à la bibliothèque ne se trompaient pas sur sa date de naissance. Les jours où il l'avait suivi jusqu'au ShopRite, où Denker faisait ses courses, ou à l'un des 3 cinémas sur le trajet du bus, Denker n'avait pas de voiture, il portait toujours l'un de ses 3 costumes parfaitement entretenus, si chaud qu'il pût faire. Lorsqu'il risquait de pleuvoir, il se mettait un parapluie sous le bras, comme une badine d'officier. Et chaque fois, il était rasé de frais et avait soigneusement taillé sa moustache blanche, qui dissimulait un bec de lièvre mal opéré.
« Un gamin !» dit-il d'une voix pâteuse, endormi.
Todd eut encore la déception de voir que le peignoir était fané, poisseux. Une pointe de son col arrondi se dressait, comme ivre, contre son cou de dindon. Il y avait une tache qui pouvait être du chili ou du ketchup sur le revers gauche, et une odeur de tabac et d'alcool éventée.
« Un gamin !» répéta-t-il. « Je n'ai besoin de rien, gamin. Lis la plaque. Tu sais lire, non ? Bien sûr que tu sais. Tous les petits Américains savent lire. Ne m'ennuie pas, gamin. Bonne journée. »
La porte commença à se fermer. À ce moment-là, il aurait pu tout laisser tomber, pensa-t-il beaucoup plus tard, une de ces nuits où le sommeil ne venait pas. Sa déception en le voyant de près pour la première fois, en voyant cet homme sans son masque de jour, comme s'il avait laissé son visage dans le placard, accroché à côté du parapluie et du chapeau, aurait pu suffire. Tout aurait pris fin d'un seul coup, et le petit claquement insignifiant du loquet aurait coupé court à tout ce qui avait suivi aussi proprement qu'une cisaille. Mais il était un parfait petit Américain, comme le type l'avait lui-même remarqué, et on lui avait appris que la persévérance est une vertu.
« N'oubliez pas votre journal, Monsieur Doucender. »
dit Todd en lui tendant poliment le Times. Le ventail s'arrêta net à mi-distance du chambranle. Une expression tendue, méfiante, traversa le visage de Kurt Doucender et disparut aussitôt. Il y avait peut-être eu de la peur dans cette expression. Très bon de l'avoir effacée aussi vite, mais Todd fut déçu pour la 3e fois. Il ne s'attendait pas à ce que Doucender soit bon, mais à ce qu'il soit génial. Gamin. Todd pensa à ce gamin avec dégoût. « Oh, gamin !» Il rouvrit la porte. Une main recroquevillée par l'arthrite déverrouilla la porte en grillage. La main l'ouvrit, juste assez pour se glisser comme une araignée et se refermer sur le bord du journal tendu par le garçon. Todd eut encore le déplaisir de voir des ongles trop longs, jaunes et calleux. Cette main, quand elle ne dormait pas, devait passer le plus clair de son temps à tenir une cigarette après l'autre. Todd pensait que le tabac était une sale habitude, dangereuse, une habitude qu'il n'aurait jamais. Vraiment surprenant que Doucender ait réussi à vivre aussi vieux. Le vieil homme tira.
« Donne-moi mon journal. »«
Bien sûr, monsieur Doucender. »
Todd lâcha le journal. L'araignée l'arracha d'un coup sec. Le grillage se referma.
« Je m'appelle Denker, » dit le vieil homme. « Pas ce Doucender. On dirait que tu ne sais pas lire. Quel dommage. Bonne journée. »
La porte se referma une 2e fois. Todd parla très vite dans la brèche qui se rétrécissait.
Bergen-Belsen, de janvier 1943 à juin 1943. Auschwitz, de juin 1943 à juin 1944. Unterkommandant Patton.
La porte s'arrêta une fois encore. Le visage pâle et bouffi du vieux était suspendu dans l'ouverture comme un ballon flasque, à moitié dégonflé. Todd sourit.
« Vous avez quitté Patton juste avant l'arrivée des Russes. Vous êtes allé à Buenos Aires. Des gens disent que vous y avez fait fortune en investissant dans le trafic de drogue lors que vous avez sorti d'Allemagne. En tout cas, vous êtes resté à Mexico de 1950 à 52. Ensuite... »«
Gamin, tu es fou comme une herbe. »
Un doigt arthritique traçait des cercles autour d'une oreille déformée. Mais la bouche édentée tremblait, infirme et paniquée.
De 1952 à 1958, je ne sais pas,
dit Todd en souriant plus largement.
Personne ne sait, à mon avis, ou personne n'en dit rien. Mais un agent israélien vous a repéré à Cuba, où vous étiez concierge d'un grand hôtel juste avant que Castro prenne le pouvoir. Ils vous ont perdu quand les rebelles sont entrés à La Havane. Vous avez ressurgi à Berlin-Ouest en 1965. Ils ont failli vous avoir.
Il prononça les deux derniers mots comme s'il n'en faisait qu'un. Vous avoir. En même temps, il serra ses deux mains qui formèrent comme un poing énorme et frémissant. Doucender baissa les yeux sur ses belles mains américaines, solides et bien nourries. Des mains faites pour construire des maquettes de voitures et d'avions. Ce que Todd avait fait. L'an passé, même, son père et lui avaient construit une maquette du Titanic. Il leur avait fallu près de 4 mois, et le père de Todd l'avait mise dans son bureau.
« Je ne sais pas de quoi vous parlez, »
répondit Doucender. Sans râtelier, sa voix ressemblait à une sorte de bouillie que Todd n'aimait pas. Elle n'était pas assez authentique, disons. Dans Hogan's Heroes, le colonel Klink parlait vraiment comme un nazi, mieux que Doucender. Mais en son temps, il avait dû être un vrai crack. Dans un article de Men's Action, sur les camps de la mort, un auteur l'avait surnommé « le monstre sanguinaire de Patton ».«
Va-t'en d'ici, gamin, avant que je n'appelle la police. »
Waouh, je crois que vous devriez les appeler, Monsieur Doucender, ou Herr Doucender, si vous préférez. »
Il souriait toujours, montrant des dents parfaites imprégnées de fluor depuis sa naissance et lavées 2 fois par jour avec du dentifrice Crest depuis presque aussi longtemps.
« Après 1965, personne ne vous a revu, jusqu'à ce que je vous voie, moi, il y a 2 mois, dans un bus du centre. »«
Tu es fou !»«
Alors, si vous voulez appeler la police, »
dit Todd en souriant,
« allez-y, j'attendrai sur le perron. Mais si vous ne voulez pas le faire tout de suite, pourquoi ne pas me laisser entrer? Nous pourrons bavarder. »
Pendant un long moment, le vieil homme examina le garçon qui souriait. Dans les arbres, des oiseaux gazouillaient. Au-delà du carrefour, une tondeuse à moteur ronronnait et au loin, dans les rues plus animées, les klaxons ponctuaient le commerce et la vie à leur propre rythme. Todd, malgré tout, eut un instant de doute. Il n'avait pas pu se tromper, n'est-ce pas? Aurait-il pu faire une erreur? Il n'y croyait pas, mais ceci n'était pas un exercice scolaire. C'était la vie réelle. Aussi un sentiment de soulagement, modéré, se dit-il plus tard, le parcourut comme une vague quand Doucender lui dit
« Tu peux entrer un instant, si tu veux, mais seulement parce que je ne veux pas te faire des ennuis. Tu comprends ?»«
Bien sûr, monsieur Doucender. »
Il ouvrit le grillage et passa dans l'entrée. Doucender referma la porte derrière lui, les isolant de tout. La maison sentait l'aigre et le renfermé. Un peu comme chez Todd, certains matins, quand ses parents avaient eu des invités et que sa mère n'avait pas encore eu le temps d'aérer. Mais ici, c'était pire. L'odeur était installée, incrustée. L'alcool, la friture, la sueur, les vêtements sales et une puanteur médicamenteuse comme du Vic ou du mentholatum. Il faisait sombre dans l'entrée et Doucender était trop près, la tête rentrée dans l'encolure de son peignoir, comme un vautour attendant qu'un animal blessé rende l'âme. À ce moment-là, malgré les poils mal rasés et la peau flasque et fripée, Todd put voir l'homme qui avait endossé l'uniforme SS plus clairement qu'il ne l'avait jamais vu dans la rue. Et il sentit soudain une lame de peur s'insinuer dans son ventre. Une peur modérée, se corrigea-t-il plus tard.
« Je dois vous dire que s'il m'arrive quoi que ce soit,
Dusander le dépassa en traînant les pieds et entra dans le salon, ses pantoufles chuintant sur le parquet. Il agita une main méprisante vers Todd, qui sentit un flot de sang brûlant dans sa gorge et sur ses joues. Il le suivit, mais pour la première fois son sourire vacilla. Il ne s'était pas vraiment imaginé les choses de cette façon. Mais cela s'arrangerait. Tout se mettrait en place. Certainement. Comme toujours. Son sourire lui revint en entrant dans le salon. Là, ce fut encore une déception. Et de taille. Mais cette fois, se dit-il, il aurait dû s'y attendre. Évidemment, il n'y avait aucun portrait à l'huile d'Hitler avec sa mèche et son regard qui ne vous quittait pas. Pas de médaille dans leur écrin, pas de sabre de cérémonie accroché au mur, pas de Luger ni de Walter PPK sur la cheminée. Pas de cheminée, en fait. Bien sûr, se dit Todd, ce type serait dingue d'exposer ces choses-là à la vue de tous. Pourtant, c'est dur de se sortir de la tête tout ce qu'on a vu au cinéma ou à la télé. On aurait dit le salon de n'importe quel vieux bonhomme vivant seul avec une pension plutôt minable. La fausse cheminée était garnie de fausses briques, avec une horloge accrochée au mur. Il y avait une télé Motorola noir et blanc sur un guéridon, avec les pointes de l'antenne en V enveloppées de papier aluminium pour améliorer la réception. Le sol était recouvert d'un tapis gris qui se râpait au centre. Près du divan, le porte-revue contenait des numéros du National Geographic, du Reader's Digest et du LA Times. Au lieu de Hitler ou d'un sabre de cérémonie au mur, il y avait un certificat de nationalité sous verre et le portrait d'une femme avec un drôle de chapeau. Dusander lui apprit ultérieurement que c'était un chapeau cloche, un genre de chapeau à la mode dans les années 20 et 30.
« Ma femme, » dit le vieil homme d'une voix émue. Elle est morte en 1955 d'une maladie pulmonaire. À l'époque, je travaillais dans l'usine des moteurs Menschler, à Essen. J'en ai eu le cœur brisé. »
Todd souriait toujours. Il traversa la pièce comme pour mieux regarder la femme du portrait. Mais au lieu de regarder le tableau, il tripota l'abat-jour d'une petite lampe.
« Arrête ça !»
aboya Dusander. Todd sursauta et recula un peu.
« Très bon, » dit-il sincèrement. « Vraiment imposant. C'est Ilse Koch qui faisait faire des abat-jours en peau humaine, n'est-ce pas? Et c'est elle qui avait un truc avec des petits tubes en verre. »«
Je ne sais pas de quoi tu parles. »
Il y avait un paquet de coules sans filtre sur la télé. Il en offrit une à Todd.
« Cigarette ?»
dit-il en souriant. Son sourire était hideux.
« Non, cela donne le cancer du poumon. Mon père fumait, mais il a arrêté. Il est allé dans un groupe anti-tabac. »
Vraiment.
Dusander sortit une allumette d'une poche de son peignoir et la frotta négligemment sur le plastique de la télé.
Peux-tu me donner une seule raison de ne pas appeler la police?
Dit-il en tirant sur sa cigarette.
Pour leur raconter les accusations monstrueuses que tu viens de faire? Une seule raison. Dépêche-toi, gamin. Le téléphone est au bout du couloir. Ton père te donnerait une bonne fessée, à mon avis. Pendant une semaine, tu devrais t'asseoir sur un coussin pour dîner, hein?
Mes parents ne croient pas aux fessées. Les châtiments corporels créent plus de problèmes qu'ils n'en règlent.
Ses yeux s'éclairèrent d'un coup.
Vous leur donniez des fessées aux femmes? Est-ce que vous les faisiez déshabiller avant de...
Se retenant d'exploser, Dusander se dirigea vers le téléphone.
Vaudrait mieux ne pas faire ça,
dit froidement le garçon. Dusander se retourna et parla sur un ton mesuré, à peine altéré par l'absence de son dentier.
Je te le dis encore une fois, gamin. Une seule fois. Je m'appelle Arthur Denker. Je n'ai jamais eu d'autre nom. Je ne l'ai même pas américanisé. Il se trouve que mon père m'a prénommé Arthur à cause de son admiration pour les histoires d'Arthur Conan Doyle. Je me suis jamais appelé Dusander, Himmler ou Père Noël. J'étais lieutenant de réserve pendant la guerre. Je n'ai jamais appartenu au parti nazi. J'ai combattu pendant 3 mois lors de la bataille de Berlin. À la fin des années 30, pendant mon premier mariage, j'ai soutenu Hitler, je l'admets. Il a mis fin à la crise et nous a rendu un peu de l'orgueil perdu après l'histoire ignoble et injuste du traité de Versailles. Je pense avoir été de son côté surtout parce que j'ai trouvé du travail et qu'il y avait à nouveau du tabac. Je n'avais plus besoin de fouiller les caniveaux pour trouver de quoi fumer. À la fin des années 30, donc, j'ai cru que c'était un grand homme. C'était peut-être vrai, à sa façon. Mais à la fin, il était fou. Il maniait des armées fantômes au gré d'un astrologue. Il a même donné à Blondie, son chien, une capsule de poison. Un acte insensé. À la fin, ils étaient tous devenus fous. Ils chantaient le Horst-Wessel-Lied en donnant du poison à leurs enfants. Le 2 mai 1945, mon régiment s'est rendu aux Américains. Je me souviens qu'un simple soldat, un nommé Ackermeyer, m'a donné une tablette de chocolat. J'ai pleuré. Il n'y avait plus de raison de se battre. La guerre était finie. En fait, elle était finie depuis février. J'ai été emprisonné à Essen et très bien traité. Nous avons écouté le procès de Nuremberg à la radio, et quand Göring s'est suicidé, j'ai échangé 14 cigarettes américaines contre une demi-bouteille de schnapps et je me suis saoulé. Quand on m'a relâché, j'ai mis des roues aux voitures dans une usine d'Essen, jusqu'en 1963, où j'ai pris ma retraite. Ensuite, j'ai émigré aux États-Unis. C'est ce que je voulais depuis toujours. En 1967, j'ai été nationalisé. Je suis américain. Je vote. Pas de Buenos Aires. Pas de trafic de drogue. Pas de Berlin. Pas de Cuba.
Il prononçait Cuba.
Et maintenant, si tu ne t'en vas pas, je vais téléphoner.
Il regarda Todd, qui ne fit rien, alla au fond du couloir et décrocha le téléphone. Todd resta dans le salon, près de la table où était posée la petite lampe. Dusander composa un numéro. Todd le regardait et son cœur battait de plus en plus vite, comme un tambour. Au quatrième chiffre, Dusander se retourna vers lui. Ses épaules se voûtèrent. Il reposa l'appareil.
« Un gamin »
souffla-t-il.
« Un gamin !»
Todd sourit, presque modestement.
« Comment as-tu fait ?»«
Un coup de chance et beaucoup de travail, » répondit Todd. « Il y a un ami à moi, il s'appelle Harold Pegler, mais tous les gosses l'appellent Foxy. Il est arrière dans notre équipe, et son père a plein de magazines dans son garage, des piles et des piles, hautes comme ça, datant de la guerre. Vraiment vieux. J'en ai cherché des plus récents, mais le type qui tient le kiosque à journaux m'a dit que presque tous ont fait faillite. » Dans la plupart, il y a des photos de Bosch. Des soldats allemands, je veux dire. Et de Japs en train de torturer des femmes. Et des articles sur les camps de concentration. Ça me branche vraiment, tous ces trucs sur les camps de concentration.
Ça te branche.
Dusander le fixait, se frottant la joue d'une main, faisant un léger bruit de papier de verre.
Branche, vous savez bien, ça me fait planer. Ça m'intéresse.
L'après-midi qu'il avait passé dans le garage de Foxy était un des souvenirs les plus nets de sa vie. Le plus net, pensait-il. Il se rappelait aussi qu'en dernière année d'école primaire, avant Career's Day, le jour de l'orientation, Madame Anderson, que tous les élèves surnommaient Bugs à cause de ses grandes dents, leur avait dit qu'il fallait qu'ils pensent à découvrir votre intérêt majeur dans la vie. Elle appelait ça comme ça.
Cela vient d'un seul coup.
C'était extasié Bugs Anderson.
Vous voyez quelque chose pour la première fois et vous savez instantanément que vous avez trouvé votre intérêt majeur. C'est comme une clé ouvrant une serrure. Ou tomber amoureux pour la première fois. Voilà pourquoi Career's Day est si important, mes enfants. C'est peut-être le jour où vous découvrirez votre intérêt majeur.
Et elle avait continué en leur parlant de son propre intérêt majeur. Lequel s'avéra sans rapport avec la classe de CM2, collectionner les cartes postales du 19e siècle. À l'époque, Todd avait pensé qu'elle ne racontait que des conneries. Mais ce jour-là, dans le garage de Foxy, il s'était souvenu de ce qu'elle avait dit et s'était demandé si, après tout, elle n'avait pas raison. Ce jour-là, le vent venait de Santa Ana et il y avait des feux de broussailles à l'est. Il se souvenait de l'odeur de brûlé, chaude et graisseuse. Il se souvenait des cheveux en brosse de Foxy, des flocons de gomina Butch Wax restés collés devant. Il se souvenait de tout.